Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Migrants venus d'Asie, histoire de trajectoires individuelles et collectives. Les Asiatiques, combien sont-ils ? Mais y a-t-il plus englobant et donc vide de sens que de considérer les populations d'Asie comme un tout ? Chine et Japon, Siam et Annam, tant de peuples, tant de diversité. Ce sont autant d'histoires qui se croisent et qui construisent un récit, celui des immigrations est et sud-est asiatiques. Ce sont des destins avec des épisodes tragiques, d'autres héroïques, qui s'écrivent aussi avec des trajectoires individuelles, avec de l'émotion, histoire d'échange, histoire de migration.
Parce que la France a renoué les relations diplomatiques avec la Chine communiste, les Français se sont mis à l'heure de Pékin.
Ce sont les oubliés de la guerre d'Indochine. Mais en majorité, ils étaient d'Hanoï, de Saigon, ou du Laos, ou du Cambodge.
Les Cambodgiens sont rares en France par rapport aux originaires d'autres territoires d'outre-mer.
Cette pagode a été construite après la Grande Guerre par les soldats indochinois ou Kangaliens.
Les Chinois ont découvert la poudre à canon, mais ils s'en sont pas servis pour conquérir le monde, ils s'en sont servis pour faire des feux d'artifice.
Le cours de l'histoire.
Une évocation de ces migrations venues d'Asie, avec des précisions à mettre en place tout de suite. Bonjour Simène Wang.
Bonjour.
Immigration est et sud-est asiatique depuis 1860, c'est le titre d'une exposition qui se tient au Musée national de l'histoire de l'immigration, c'est le palais de la Porte Dorée à Paris. L'idée de construire une telle exposition aujourd'hui est motivée aussi par l'actualité, mais tout ce qui est historique est lié à l'actualité. Pourquoi ?
Je dirais que effectivement, ce sont des migrations à la fois anciennes, mais aussi très très contemporaines, puisque nous avons décidé de commencer par 1860, puisque c'est un moment charnière dans les rapports, dans l'histoire des rapports entre l'Orient et l'Occident, et plus précisément entre la France et cette partie de l'Asie. Et donc, je dirais qu'il y a deux événements historiques majeurs qui se sont passés à cette époque-là. Donc, d'une part, c'est la fin de la deuxième quart de l'opium. Et donc, la Chine a été imposée une autorisation du commerce de l'opium par la France à côté du Royaume-Uni. Et donc, ça a beaucoup, beaucoup affaibli l'empire de Chine, de Qing. Et en même temps, le Japon est également contraint à l'ouverture du commerce suite à la signature des traités dits INECO. Et n'oublions surtout pas le deuxième événement majeur que je voudrais souligner, c'est le début de la colonisation française en Cochinchine.
Et puis, on peut parler d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous voyons très bien le rapport que nous avons avec la Chine, avec tous ces pays d'Asie, et tout est constitué de stéréotypes, de préjugés. Ces préjugés, et vous avez raison, Simène Wang, il faut remonter loin pour comprendre leur construction, et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire une exposition sur les immigrations, et le pluriel est très important, est et sud-est asiatique, c'est aussi démonter les préjugés d'aujourd'hui.
Exactement. Nous avons vraiment décidé de remonter dans le temps pour montrer dans quelle mesure le racisme anti-asiatique et aussi toutes les discriminations raciales ont un ancrage historique dans le passé, très en lien avec le passé colonial et l'histoire post-coloniale. Et ce qui est aussi très important, pourquoi vous l'avez très justement souligné, avec S-immigration, puisque on constate en fait un processus relativement similaire de racialisation vécu par ces personnes en provenance de l'Asie de l'Est et Sud-Est, dans le sens où en fait, bien qu'il y a des contextes très singuliers à chaque pays d'origine, mais les ressortissants asiatiques, ils sont souvent attachés aux stéréotypes dits relativement similaires, puisque il vit un processus relativement similaire de racialisation qui consiste à un processus par lequel un individu est assigné à une catégorie raciale qui n'est pas du tout entendue sur une réalité biologique, mais qui est entendue au sens d'une construction sociale.
Des individus, histoire individuelle, mais histoire collective bien sûr, avec des immigrations qui nous viennent d'Asie, et puis plus généralement, l'histoire même de l'immigration et des migrations. Bonjour Émilie Gandon.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice du patrimoine et responsable des collections historiques du Musée national de l'histoire de l'immigration. Je l'ai dit, c'est le palais de la Porte Dorée à Paris. Tout ce que l'on vient de dire là, c'est aussi une des missions de ce palais de la Porte Dorée. C'est replacer l'histoire des migrations pour détruire aussi tous ces clichés que portent ces différentes populations. Ici, nous parlons des gens qui viennent d'Asie, mais c'est aussi valable dans la démarche pour toutes les migrations.
Absolument. Le Musée national de l'histoire de l'immigration, donc, qui a ouvert en 2007, il a parmi ses missions celle de valoriser, de faire connaître, de rendre accessible à un public vraiment large l'histoire de l'immigration en France. Dans cette perspective, on a rouvert au mois de juin dernier notre nouvelle exposition permanente qui présente une histoire de l'immigration dans le temps long du XVIIe siècle à nos jours. Et pour l'immigration, notre exposition sur les immigrations est et sud-est asiatiques, effectivement, c'était important pour le Musée national de l'histoire de l'immigration d'organiser une telle exposition. C'est une histoire qui est très peu connue, qui est très peu racontée. Au moment de l'ouverture de notre nouvelle exposition permanente, il y a un sondage qui a révélé que l'histoire de l'immigration en France, elle était très peu connue des Français. Et au sein de cette histoire de l'immigration, l'histoire des migrations asiatiques l'est encore moins. Donc il y avait un véritable enjeu avec notre exposition de pouvoir un petit peu réparer cette omission collective en proposant cette exposition. Donc il y avait eu d'autres expositions par le passé sur certains aspects de cette histoire de l'immigration, mais il y avait vraiment un enjeu pour nous à organiser cette exposition pour mieux connaître notre passé, et aussi il y avait vraiment un enjeu de reconnaissance de l'histoire de ces personnes qui sont arrivées en France, dont les parents sont venus en France pour mieux faire connaître cette histoire.
Qui est concerné par cette exposition? Tout le monde, l'ensemble de la population française. Là, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Si on veut chiffrer aujourd'hui la part que représente la population d'origine asiatique, et j'utilise ce mot très englobant, hein, je sais, c'est pour plus de facilité, dans l'immigration totale, on est sur une proportion de combien?
Oui, alors l'INED nous a proposé des chiffres, hein, et donc jusqu'en 2020, sur le sol français, il y a environ 8,5 millions d'immigrés. Et donc par immigrés, on parle vraiment des personnes nées à l'étranger et qui vivent aujourd'hui sur le sol français. Et donc parmi cette part entière des immigrés, l'ensemble des 9 pays asiatiques dont on parle, hein, dans cette exposition, représente environ 6% des populations. Et donc, par exemple, le premier pays de provenance asiatique en France, hein, consiste en Vietnam et non pas la Chine, hein, et cela représente environ 153 000 personnes. Donc là, on parle vraiment des chiffres des primo-arrivants, alors que on peut également citer quelques chiffres pour les descendants, et donc notamment selon les statistiques de l'INSEE qui ont été établies en 2019, on recense en fait 153 000 descendants d'immigrés en provenance des trois pays de l'ex-Indochine, hein, donc Vietnam, Cambodge, Laos. Et pour les descendants de migrants chinois, on recense il y a 4 ans 37 000 personnes.
Oui, parce que ça fait du monde quand on dit des chiffres comme
Exactement.
Ça, et puis on peut revenir à l'individu. C'est en fait ce jeu de va-et-vient, Émilie Gandon, qu'on va retrouver dans l'exposition à Immigration Est et Sud-Est Asiatique depuis 1860. Et globalement, je le redis encore, au Palais de la Porte Dorée, au Musée National de l'Histoire de l'Immigration. L'individu, c'est au cœur de cette démarche.
Oui, absolument, c'est vraiment une spécificité de nos expositions, d'associer grandes histoires et petites histoires, d'incarner ces grands mouvements migratoires à travers des histoires personnel, individuel, intime, parce que c'est souvent du plus intime aussi que surgit l'universel. Donc dans nos expositions, et dans celle-ci particulièrement, on a vraiment à cœur de présenter une diversité d'objets, des œuvres, des documents, des archives, mais aussi des objets du quotidien, des photographies de famille qui témoignent de ces parcours migratoires personnels, de ces histoires familiales et qui permettent vraiment d'entrer dans cette histoire et d'incarner cette histoire.
Oui, c'est une histoire incarnée. C'est très important de le dire et de le souligner parce que toute histoire est toujours incarnée. Elle est portée par des hommes et des femmes. Et cette histoire-là, celle des immigrations est et sud-est asiatiques, l'est particulièrement, on s'en rend compte dès le début de l'exposition.
Nous avons annoncé hier la réception des ambassadeurs siamois par Leur Majesté au palais de Fontainebleau. Plus de 2 siècles s'étaient écoulés depuis que cérémonies semblables n'avaient eu lieu en France. Aussi, la curiosité était-elle vivement excitée partout sur le passage des envoyés siamois. La grande salle d'Henri II avait été préparée pour leur réception et disposée avec beaucoup de goût. Sur une estrade élevée de 3 marches, on avait tendu un dais de velours. 2 riches fauteuils étaient destinés à Leur Majesté et un siège plus bas pour le prince impérial. Dès midi, 2 officiers de l'ambassade, chargés de la garde des présents offerts par les 2 rois co-régnants de Siam, procédaient au déballage et à l'exposition de ces présents. À 5h, l'empereur, qui venait de passer en revue la garnison de Fontainebleau, est entré dans la salle, tenant par la main le prince impérial.
Maïwenn Guizhou, qui nous lisait le Moniteur universel le 30 juin 1861, 3 jours plus tôt, au château de Fontainebleau, l'empereur Napoléon III recevait les ambassadeurs siamois. Alors, c'est la Thaïlande d'aujourd'hui. Ce choix, pour commencer l'exposition de 1860, Simeng Wang, vous nous l'avez dit, il y a un moment très important d'échange. Pour cette réception des ambassadeurs, évidemment, ces premiers contacts, ces premières migrations avec retour prévu, c'est quelque chose qui joue vraiment beaucoup sur la diplomatie et les élites.
Effectivement, au début de notre exposition, on met en avant ce changement dans les relations entre l'Asie et la France, avec comme le disait Simeng tout à l'heure, un essor de l'impérialisme français sous le Second Empire, qui marque un tournant dans les relations entre la France et l'Asie, et Paris devient vraiment une étape diplomatique inévitable pour les délégations, les officiels chinois, japonaises, vietnamiennes, qui viennent en France avec l'espoir de renégocier les termes de la tutelle française. Donc effectivement, on présente un certain nombre des présents qui ont été offerts par l'ambassade du Siam à Napoléon III en 1861. Donc on voit voilà, des objets très fastueux, un trône, une ceinture, un anneau aux 9 joyaux, une dague. C'est vraiment des objets très précieux qui pour une certaine part d'entre eux, symbolisent la personne du roi, Rama IV Mongkut, et qui nous disent vraiment l'importance des enjeux diplomatiques qui se jouent lors de la visite de ces ambassades. On présente aussi toute une sélection de portraits photographiques qui ont été pris au début des années 1860 par Jacques-Philippe Poteau, qui est photographe au Muséum d'Histoire Naturelle, parce que les différentes ambassades qui viennent à Paris au début des années 1860, on leur organise toute une visite. Elles visitent la bibliothèque impériale, les manufactures impériales, mais aussi le Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, ces membres d'ambassade, ils passent sous l'objectif de Jacques-Philippe Poteau, qui fait une photographie d'inspiration anthropologique, qui s'intéresse vraiment aux particularités morphologiques de ces ambassadeurs. Et donc, on voit des portraits des membres de l'ambassade du Japon en 1863, des membres de l'ambassade du Siam, aussi des membres de l'ambassade de la NAM qui arrivent en 1862 avec l'objectif de renégocier en France les termes de la présence française au Vietnam. Donc, cette délégation, elle est menée par Phan Gien Thien, dont on présente un portrait dans l'exposition. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, ces délégués, ces ambassadeurs, ils peinent à faire entendre leur voix. Ces missions diplomatiques, pour l'enjeu qu'elles portent, ce sont, de ce point de vue-là, des échecs. Et à leur retour dans leur pays d'origine, souvent, les ambassadeurs sont suspectés de compromission avec l'ennemi, avec la France. C'est le cas de Phan Gien Thien, donc, qui revient après sa mission diplomatique au Vietnam et qui est vraiment accusé de compromission avec les Français, et donc il aura un destin tragique qui finit par se suicider.
Oui, en 1867, ici, nous avons des contacts entre les élites avec des documents, et vous venez d'évoquer les photos, Émilie Gandon, qui sont d'une qualité exceptionnelle. C'est très intéressant que ce soit un photographe du Muséum d'Histoire Naturelle, et non pas du ministère des Affaires étrangères qui prennent ces photos-là, Simeng Wang. Non, mais il y a de l'émotion aussi, et on peut le dire avec ces photos d'une qualité remarquable où vraiment la précision est là, on voit les vêtements de ces gens qui se trouve dans un univers complètement inconnu. C'est quelque chose qui est très touchant.
Oui, et tout à l'heure, Emily a évoqué une série de photos qui ont été prises par Poteau, et effectivement, on y trouve hein, dans l'exposition également deux autres portraits qui ont été photographiés par Nadar, et du coup qui propose en fait un style relativement différent. Au lieu de vraiment mettre le projecteur sur le visage, sur le profil, etc., Nadar s'intéresse davantage aux situations sociales dans lesquelles la personne photographiée se situe. Donc, ces séries de photos nous racontent aussi justement le style vestimentaire et aussi la façon d'être, les gestes, etc. Donc, les deux séries de photos sont vraiment complémentaires, très intéressantes.
Et puis, il n'y a pas que ça comme document, parce que la base de la démarche historique, c'est de croiser les sources. Donc, faut rappeler hein, combien dans ces années 1860, et puis ça ne cesse jamais, il y a un intérêt pour tout ce qui vient d'Asie, mais alors avec une petite fascination exotique, c'est le moment des expositions universelles aussi. Alors qui veut nous en parler des expositions universelles, Émilie Grandon, parce que là vraiment il se passe quelque chose. Hein.
Oui, effectivement, entre 1867 et 1900, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, c'est la grande période des expositions universelles à Paris. Donc c'est vraiment des symboles de la modernité triomphante, et elles sont vraiment l'occasion pour les pays participants d'exposer le meilleur de leur production technique, industrielle et artistique. Et dans cette seconde moitié du 19e siècle, les pavillons et les expositions asiatiques, chinoises, siamoises, mais surtout japonaises à partir de 1878, c'est vraiment les grands succès populaires de ces expositions. Donc on présente dans notre exposition un certain nombre d'objets qui ont été présentés, choisis par les commissions asiatiques pour être présentés durant ces expositions universelles. Et puis on met en avant des figures de passeurs culturels entre la France et l'Asie.
Oui, parce que faut pas croire hein, que nos ancêtres mélangeaient tout le monde là-bas, les Asiatiques. Il y avait une vraie lecture, ce qui vient du Japon, ce qui vient de Chine, ce qui vient d'ailleurs. Mais dans l'exposition, il y a cette mise en parallèle entre ce contact d'élite lié à la diplomatie, et puis d'autres contacts qui se déroulent sur le sol français du moment, au sens où il y a des colonies et des territoires. Qu'est-ce que c'est que Si Meng Wang, ce système où l'on doit s'engager? Il n'y a plus d'esclavage, ça tombe bien, mais il y a d'autres systèmes.
Effectivement, dans cette première section de notre exposition, on met vraiment en avant deux, je dirais, parcours de mobilité géographique qui sont distinctes. Hein. D'une part, il y a la mobilité des élites, donc on vient d'évoquer, et d'autre part, la mobilité, je dirais, des subalternes, des engagés. Justement, ce terme engagisme, qu'est-ce que c'est l'engagisme? Il s'agit d'un registre de travail dit libre par opposition aux esclaves, puisque ça a été aboli. Ça consiste en fait à transporter des travailleurs recrutés d'une colonie à l'autre. Et donc, si on vous donne un chiffre pour vous donner un peu l'ampleur du phénomène, tout au long du 19e siècle, on compte plus de 3 millions de travailleurs transportés d'une colonie à l'autre. Et donc, dans l'exposition, on a tout un ensemble d'une sous-section qui s'adresse à ces engagés. Et donc, on a des gravures, les documents des conditions de l'engagement des travailleurs chinois, vietnamiens, japonais qui ont été transportés à la Guyane, à la Réunion, à la Guadeloupe.
Oui, parce que c'est ce système-là. Alors, c'est pas de l'esclavagisme, hein, parce que c'est un contrat qui a été signé. Mais Émilie Gandon, vous faites un petit geste de la tête, disant moi, non, ça ne l'est pas par les mots. Mais enfin, ce sont des systèmes qui sont très durs, qui sont des systèmes où l'on opprime et on domine des gens qui se trouvent complètement pieds et poings liés par rapport à ceux à qui ils ont signé le contrat.
Absolument, on parle dans ce contexte de travailleurs libres, mais il faut entendre libre au sens non esclave. Donc ce caractère de travailleur libre et de contrat signé, il faut y mettre toutes les réserves que l'on peut. Et effectivement, les contrats qui sont signés entre les employeurs et les travailleurs, ils régulent une grande partie des conditions de travail, mais aussi d'existence de ces travailleurs engagés qu'on fait venir à La Réunion, aux Antilles ou en Nouvelle-Calédonie. Ils ne sont pas en mesure de se déplacer librement. Enfin, il y a tout un certain nombre de contraintes qui sont inhérents à ce système de l'engagisme.
Immigration, allez-y.
Et la durée de contrat varie entre 3 et 8 ans. Donc,
oui, c'est long. Ça peut être très long. Immigration Est et Sud-Est asiatique depuis 1860, c'est au Musée national de l'histoire de l'immigration, avec toujours cette idée de comprendre aujourd'hui et notamment de démonter les stéréotypes. Alors si on veut les lister, ces stéréotypes, si je vous demande à l'une et à l'autre les stéréotypes les plus classiques associés à ces personnes venues d'Asie,
Je dirais que ça varie vraiment en fonction des périodes, mais effectivement, comme on est dans la première le premier temps de l'exposition, donc si on prend cette période entre 1860 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, effectivement, je dirais que le mot d'ordre va être exotique, parce qu'il y a une fascination pour une altérité extrême, hein, parce que voilà, les cultures sont très très, les systèmes de pensée sont tellement lointains, et donc on a parlé de fascination pour les chinoiseries, et plus tard la fascination pour le Japon, le japonisme, et puis il y a aussi justement ces rapports de force, hein, qui s'opèrent entre la France et cette partie d'Asie. Donc il y a quand même le début de la colonisation, donc il y a un rapport de pouvoir entre dominant et dominé. Et donc il y a aussi du coup les stéréotypes se construisent aussi vraiment en fonction de ces rapports de force entre les colonisateurs et les colonisés.
C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître ces premiers stéréotypes travailleurs. Ah, ils sont travailleurs. Est-ce qu'on le voit apparaître à ce moment-là? Déjà, on parlait de langagisme, hein, l'idée de recruter ces gens. Ils sont travailleurs, ils sont obéissants.
Le stéréotype relatif aux travailleurs, il interviendra un petit peu plus tard, au moment de la Première Guerre mondiale. Ce qu'on voit apparaître à la fin du 19e siècle, qui vient doubler et renforcer un petit peu le stéréotype relatif à l'exotisme, c'est cette crainte du péril jaune, cette crainte de l'invasion. Alors, on voit ça dans la presse, dans un certain nombre de gravures, cette crainte de l'invasion de l'Occident par des hordes de Chinois ou de Japonais. Qui viendrait en France. Donc c'est vraiment à ce moment-là que naît ce mythe du péril jaune qu'on essaye de retracer dans l'exposition. On essaye de montrer sa permanence dans le temps et sa réactivation à différentes périodes.
Ah bah, notamment quand Alain Perfit prend la parole.
Ils se gardent bien de vouloir imposer leur révolution à d'autres qu'à eux, et ils proclament qu'ils sont très respectueux de l'indépendance d'autrui, et au fond ça fait partie non seulement de la volonté révolutionnaire chinoise, mais de la tradition chinoise, de ne pas être expansionniste. Les Chinois ne se sont jamais répandus à l'étranger. Les Chinois ont eu les frontières naturelles, ont eu une ère naturelle d'expansion, et il est naturel qu'ils recherchent les anciennes frontières. Mais jamais la Chine ne s'est répandue sur l'extérieur. Les Chinois ont découvert la poudre à canon, mais ils s'en sont pas servis pour conquérir le monde, ils s'en sont servis pour faire des feux d'artifice. Au fond, les Chinois s'intéressent à eux-mêmes, se suffisent à eux-mêmes, ils sont un monde immense qui est tellement riche, tellement extraordinaire, qu'il se suffit parfaitement à lui-même, il n'a pas besoin d'attaquer les autres et de conquérir les autres. C'est pourquoi je ne crois pas au péril jaune, en tout cas pour le moment.
Ah ben voilà, lui il n'y croit pas, mais il est évoqué quand même. Nous étions en 1974 quand Alain Perfit s'exprimait avec son ouvrage qui a marqué les esprits, Quand la Chine s'éveillera. Ah, le péril jaune. Mais alors, c'est toujours très important de contextualiser ces stéréotypes dans ce premier temps, année 1860, et puis qui s'ensuit. C'est vraiment l'exotisme, on sent, qui prime. Il n'y a pas encore cette idée de péril jaune, il n'y a pas l'idée qu'il y a un danger, c'est plutôt peut-être la volonté de garder une part du gâteau.
Oui, je dirais que justement le terme péril jaune a été traduit d'abord de l'anglais. En fait, en anglais, on dit yellow peril, ou bien qui est aussi parfois utilisé avec un autre terme, yellow terror, pour dire terreur jaune. Et donc justement, c'était vraiment fin 19e siècle, comme il faudrait se pencher d'abord sur ce qui s'est passé dans ces parties d'Asie. Alors déjà au tournant du 20e siècle, notamment en 1900, il y a une guerre des boxeurs, donc qui a été initiée par une société secrète chinoise dite Yihetuan, qui a frappé très très fortement en fait les puissances occidentales qui étaient présentes sur le sol chinois. Parmi ces huit puissances occidentales, il y en a sept qui sont occidentales. occidentale et la dernière japonaise. Et donc, à ce moment-là, en fait, en Occident, il y a toute une plein d'écritures et aussi, y compris dans les affiches, dans les journaux, on commence à parler d'une crainte de Péril jaune, que les personnes de la race jaune, entre guillemets, vont renverser l'ordre du pouvoir au niveau mondial. Et il faut pas oublier que quelques années après, donc en 1904-1905, le Japon a marqué la victoire dans la guerre russo-japonaise. Et donc ça a aussi alimenté en fait cette crainte de la possibilité des populations asiatiques qui gagnent des guerres et qui remportent la victoire dans les guerres dans les guerres mondiales ou régionales. Et donc effectivement déjà à ce moment-là, fin 19e siècle, dans certains pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis mais aussi en Australie, il y a eu des actes des lois qui ont été votées pour restreindre l'arrivée des populations des migrants asiatiques et notamment chinoises. Et donc ça s'est pas du tout arrêté aux frontières nationales et donc ça a circulé dans le monde occidental. Et donc c'est dans les années 1890 qu'on trouve en France, dans certains journaux français, le titre et le terme exact en français du péril jaune. Et donc du coup, pour vous montrer dans quelle mesure tout le racisme anti-asiatique, etc., a une racine historique qui remonte loin.
Oui, et puis ce péril jaune fait oublier les exactions commises par les Français, les Anglais. Je pense au sac du Palais d'été en 1860, qui est un véritable carnage, une horreur dénoncée par Victor Hugo comme un des pires crimes possibles. C'est à ce moment-là que se met en place l'image, vu qu'on est dans les stéréotypes et les préjugés, des Asiatiques cruels, les Chinois sont cruels. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir une méfiance, on ne peut pas leur faire confiance. Émilie Gandon.
Oui, effectivement, mais ça participe aussi de ces stéréotypes autour du péril jaune. C'est asiatique, c'est chinois, cruel. On en présente dans l'exposition, on présente un certain nombre de couvertures de journaux de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, qui mettent en avant ces figures extrêmement stéréotypées qui révèlent ces craintes et ces fantasmes.
Mais il y a le moment Première Guerre mondiale, moment très important, mais on peut associer les deux guerres mondiales. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans l'exposition, parce que ce sont les mêmes démarches. Là, qu'est-ce qu'il se passe dans cette histoire des immigrations est et sud-est asiatiques au moment des guerres mondiales?
La Première Guerre mondiale, elle marque vraiment le début de migration numériquement importante et durable en France. Donc à partir de 1916, la France, elle mobilise les ressources en hommes de son empire et elle recrute aussi des travailleurs étrangers. Donc au cours de la Première Guerre mondiale, la France recrute près de 90 000 travailleurs et soldats indochinois et près de 140 000 travailleurs chinois qui sont répartis sous l'autorité d'une part de l'armée française et de l'autre de l'armée britannique. Donc en Indochine, le recrutement des soldats et des travailleurs, il se fait d'abord sur la base du volontariat, mais il prend aussi beaucoup la forme d'enrôlement forcé parmi les paysans pauvres. Et puis en Chine, ce sont des représentants du ministère de l'armée qui viennent négocier avec des intermédiaires locaux le recrutement de travailleurs. Donc on achemine ces travailleurs et ces soldats asiatiques, chinois et indochinois en France. Ils arrivent à Marseille. Quand ils arrivent, on leur fait passer une visite médicale, on leur octroie un numéro d'immatriculation et on les envoie sur les différents sites où ils sont affectés. Donc pour les travailleurs indochinois, les poudreries et l'aéronautique, c'est ce qu'on montre dans l'exposition, notamment avec ce tableau d'Otton Frise, anamite dans un camp d'aviation à Pau. Donc les poudreries, l'aéronautique, ce sont des gros employeurs des travailleurs indochinois. Les soldats indochinois, eux, ils sont envoyés à l'infanterie, ils sont conducteurs de camions ou de voitures. Et puis les travailleurs chinois, eux, sont envoyés à l'arrière auxiliaires du front. Ils travaillent dans les poudreries, dans les mines, à la construction des infrastructures. On montre dans notre exposition des traces matérielles laissées par ces travailleurs. Ce sont des douilles d'obus qui ont été gravées par ces travailleurs chinois, donc qui sont gravées de décors végétaux, de dragons ou de caractères chinois.
C'est très émouvant d'ailleurs de voir ces douilles d'obus sculptées. On le connaît, c'est vraiment l'art de guerre classique, sauf que là, c'est réalisé avec une autre culture. C'est vraiment ce croisement et cet échange, cet enrichissement aussi.
Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est de, si on revient à cette question de stéréotypes et de représentation, on voit dans quelle mesure c'est là, en fait, les premières représentations de travailleurs dociles, mais inférieurs, hein, qui commencent à s'ancrer dans la société française, puisque tout à l'heure, on a parlé de l'arrivée des travailleurs indochinois, et d'ailleurs, dans un des films muets qu'on projette dans l'exposition, qui date de 1916, le titre de cet extrait de film, de ce film, s'intitule « La main-d'œuvre annamite appréciée dans les ateliers d'avions français », donc diffusé par Caumont, et donc on voit dans quelle mesure, en fait, effectivement, c'est vraiment l'image des travailleurs indochinois dociles, travailleurs, qui sont très très fortes pour des qualités pour les travails de précision, mais malgré tout inférieurs, qui sont aussi assignés au poste ou au travail de subordination, on peut dire, mais en tout cas ils sont à l'arrière du front, ils sont là en tant que support.
Ils sont là, nous parlons de la Première Guerre mondiale, évoquons la Seconde.
Les Cambodgiens dans la résistance.
Les Cambodgiens sont rares en France par rapport aux originaires d'autres territoires d'outre-mer. À part quelques étudiants, l'on compte seulement une centaine de travailleurs groupés pour la plupart dans le midi de la France. Malgré leur petit nombre, quelques-uns d'entre eux ont manifesté une certaine activité dans la résistance. S'il me fallait donner des exemples précis, je citerai seulement le cas de ce travailleur évadé du camp de Toulon au mois de mai dernier et qui, après un court séjour à Paris, réussit à se faire admettre dans une équipe de corps franc dans la forêt d'Orléans. Il avait à son actif plusieurs déraillements et quelques coups de main hardis.
Mais il doit y avoir d'autres cas dignes d'être signalés, mais que vous ignorez.
Certainement. Quoi qu'il en soit, on ne dira pas plus tard que le Cambodge est resté en marge de l'épreuve qu'a traversée et que traverse encore la France.
Nous étions en décembre 1944 quand Chen Wang, cambodgien, s'exprimait. Le titre de l'émission, le quart d'heure colonial. Ce moment, Seconde Guerre mondiale, là aussi, alors il y a une différence évidente entre les deux guerres mondiales, parce que ici il y a l'engagement dans la résistance. C'est quelque chose de très fort. Émilie Gandon, d'ailleurs, on le voit dans l'exposition avec ce drapeau qui est très très impressionnant.
Oui, effectivement, dans l'exposition, on évoque la participation des soldats indochinois dans la résistance à travers l'exemple du maquis de Loisan. Donc, le maquis de Loisan, c'est dans les Alpes françaises, entre les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. Et donc, dans ce maquis de Loisan, donc il y a des hommes qui sont bien entendu issus de la région grenobloise et des troupes coloniales. Et donc parmi eux, dans ce maquis Loisan, il y a une centaine de soldats coloniaux indochinois qui ont participé à la libération de l'Isère. Donc effectivement, on présente ce grand drapeau, cette grande bannière qui date pas de la Seconde Guerre mondiale, hein, qui est de réalisation postérieure, mais qui est vraiment là pour commémorer, pour valoriser cette mémoire de la participation des soldats indochinois au maquis Loisan dans la résistance.
Dans cette histoire des immigrations est et sud-est asiatiques, on voit bien comment se dessine tout doucement la chronologie avec ces premières années. Ce sont les élites, c'est la diplomatie. Il n'y a pas vraiment d'installation des gens. Alors, de manière épisodique, il peut y avoir des installations. Ces moments, guerre mondiale, l'entre-deux-guerres. On voit bien ici qu'il y a quelque chose d'important qui se passe parce que on va retrouver encore ces migrations d'élites. Mais Simeng Wang, c'est pas du tout la même motivation. C'est plus du tout la diplomatie.
Oui, effectivement, pendant la période de l'entre-deux-guerres, il y a quelques milliers d'étudiants chinois, des personnes chinoises qui sont venues dans le mouvement de travail-études. Et plus tard, il y a aussi quelques centaines, environ 500 étudiants qui sont venus à Lyon pour étudier à l'Institut franco-chinois à Lyon. Et donc, effectivement, il y a cette, je dirais, cette volonté pour ces jeunes chinois d'apprendre à l'Occident les façons pour moderniser une Chine qui est assez affaiblie. Et donc, si on regarde un peu les disciplines étudiées par ces étudiants, effectivement, c'est très, très varié. Il y a des gens qui sont venus étudier sciences dures, d'autres sciences sociales, et notamment dans l'exposition, on met aussi en avant une mobilité étudiante des artistes, à la fois chinoises, mais aussi japonaises, qui sont vraiment très, qui nous racontent justement comment la vie quotidienne aussi de l'entre-deux-guerres, à la fois là, il s'agit encore un peu des personnes élites, parce que malgré tout, ce sont des étudiants, ce sont des gens qui sont dotés dans le pays d'origine, mais il faut pas oublier aussi que avec les travailleurs indo-chinois et chinois qui sont restés après la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup qui se sont lancés aussi dans le petit commerce, dans l'ouverture des restaurants, etc. Et donc du coup, il y a cette rencontre, je dirais, par les lieux de sociabilité, une rencontre communautaire, mais entre différentes couches sociales, qui est vraiment très, très intéressant à observer.
Des trajectoires collectives, bien sûr, et à l'intérieur, évidemment, individuelles. Et dans ce que vous venez de nous raconter, Simeng Wang, il y a de l'individu et pas des moindres. Il y a des noms qui surgissent soudain. On ne s'attendrait pas à les voir là, mais si, ils sont bien présents. Émilie Gandon, on trouve Deng Zhe...
Effectivement, on voit surgir dans notre exposition, dans cette partie consacrée à l'entre-deux-guerres, quelques figures extrêmement connues. On parle de Deng Xiaoping, qui effectivement a participé au mouvement travail-études dont parlait Simeng. Les étudiants qui ont participé à ce mouvement travail-études étaient pour une certaine partie d'entre eux marqués politiquement. Leur engagement, il allait de l'anarchisme jusqu'au communisme. Et donc, parmi eux, on trouve plusieurs futurs leaders du communisme, dont Deng Xiaoping. On présente aussi dans notre exposition la fiche de surveillance de Ho Chi Minh, qui est à Paris dans les années 20. On a tout un ensemble qui présente l'engagement des étudiants et des militants indo-chinois en France dans l'entre-deux-guerres. Il y a vraiment ce bouillonnement politique. Et dans l'entre-deux-guerres, la lutte coloniale des Vietnamiens, elle se développe sur le sol métropolitain. Donc les élites révolutionnaires, parmi lesquelles le futur Ho Chi Minh, s'appuient sur toute cette présence d'étudiants, de lycéens, mais aussi de travailleurs qui se renforcent à cette période-là. Donc effectivement, on voit apparaître au fil de l'eau quelques figures célèbres, mais à côté, on voit aussi quelques anonymes dont on raconte l'histoire également.
Oui, Émilie Gandon, vous avez raison de le rappeler sans cesse. Il y a ces grandes figures et c'est très intéressant parce que les noms sont connus. On se fait « Oh tiens, Deng Xiaoping !» Mais il y a aussi ces destins individuels avec ces petits carnets de traduction pour pouvoir dire bonjour, merci, au revoir le plus facilement possible. Alors bien sûr, ces élites communistes venues d'Asie se forment en Europe, retournent en Asie, ce qui a évidemment des conséquences.
Parce que la France a renoué les relations diplomatiques avec la Chine communiste, les Français se sont mis à l'heure de Pékin. L'engouement de Paris pour la Chine revêt les formes les plus inattendues. Le grand public parisien fait depuis une semaine un accueil chaleureux à l'Opéra de Pékin. Les danseuses au visage de porcelaine font des clins d'œil bridés aux spectateurs, charmés par les longues écharpes de soie qui flottent au milieu de robes claires et fleuries. Jamais les restaurants chinois n'ont fait de si bonnes affaires. Le bol de riz fait concurrence aux frites, les nids d'hirondelles et les ailerons de requin font oublier le prix de la viande de bœuf. Pour ces bonnes fourchettes, un repas, voyez-vous, c'est la marche à la baguette.
C'est la marche à la baguette. La France sans Chine. Alors ça, c'est le titre de l'émission en 1964 avec beaucoup d'ironie. Tous ces clichés-là que nous entendons, il y a tout. Il y a les baguettes, il y a le bol de riz, il y a les yeux bridés, il y a absolument tout. Simeng Wang, le moment colonial doit être pris en compte pour montrer comment ces stéréotypes se construisent peu à peu. Parce que c'est ça aussi, cette histoire qui se raconte, cette histoire d'immigration. Donc là, les stéréotypes dans ces années 1950-1960 sont fixés.
Oui, ils sont fixés et ça dépend vraiment de quelle population asiatique dont on parle. Hein, si on se penche de près sur cette question de stéréotypes, puisque je devrais aussi rappeler que, en tout cas pour la mobilité géographique et aussi migratoire en provenance de la Chine, en tout cas pendant 30 ans, ça a été presque inexistante, puisque après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, hein, jusqu'à l'ouverture de la Chine qui s'est opérée 30 ans après, les personnes en provenance de la Chine continentale pour venir en France sont très très peu nombreux. En revanche, pour cette période de l'après-deux-guerres jusqu'à justement dans les années 70, 80 et même 90, hein, c'est ce qu'on voit, l'arrivée massive de la part des personnes d'origine asiatique, ce sont l'arrivée d'une part des rapatriés, donc en provenance de l'ex-Indochine, hein, après l'indépendance de l'Indochine, et aussi d'autre part l'arrivée massive des personnes réfugiées sud-est asiatiques, qui souvent prennent le terme qui est une construction médiatique, hein, de boat people.
Oui, parce que ce sont ces deux mouvements-là qui sont très intéressants à partir. Alors, 1954, la France perd l'Indochine, diantre. Que faire de tous ces réfugiés? Parce que il y a des gens qui ont la double nationalité. Comment ça se passe d'ailleurs? C'est des gens que l'on accueille, donc qui traversent depuis l'Indochine pour arriver en Europe, en France, mais ils s'installent où?
Absolument, c'est une trajectoire assez longue. Donc, comme vous l'avez rappelé, les accords de Genève y mettent fin à la guerre d'Indochine. Le Laos, le Cambodge, le Vietnam deviennent indépendants et donc ça enclenche des flux de migration plus soutenus vers la métropole. Et donc, il y a quelques milliers de ces Français d'Indochine qui sont rapatriés en métropole. Donc les personnes qui sont transférées sur le territoire, elles ont vraiment des profils divers. Hein. Il y a d'anciens colons français, des fonctionnaires ou des soldats, il y en a très peu. Il y a aussi des employés et des auxiliaires de l'armée avec leurs familles. Il y a aussi des enfants qui sont issus d'unions franco-asiatiques, que ce soit des orphelins ou des enfants accompagnés de leur mère indochinoise. Et puis aussi des ressortissants des possessions françaises d'Inde, de la Réunion ou des Antilles qui avaient migré en Indochine au début de la colonisation. Et donc, une partie de ces rapatriés, ils sont transférés en France en tant que citoyens français, mais pour une partie d'entre eux, ils n'ont jamais foulé le sol de la métropole. Il y en a certains qui ne parlent pas français. Et donc, ces rapatriés de nationalité française qui n'ont pas d'attache avec la métropole, ils sont pris en charge par le service des rapatriés d'Indochine. Et ils sont regroupés dans des centres d'accueil des rapatriés d'Indochine qu'on a appelés les CARI, puis les CAFI. Donc voilà, comme vous le disiez, c'est un long voyage depuis Saïgon, enfin qui s'effectue en bateau depuis Saïgon jusqu'à Marseille. Et donc à leur arrivée, ces personnes, elles sont installées dans des centres d'accueil. Le plus important d'entre eux, il se trouve à Noyant-d'Allier et il héberge à partir d'octobre 1955 près de 5000 familles. Et donc dans l'exposition, on présente le parcours de vie d'une de ces familles, la famille Lee Kyung. Donc on présente une robe traditionnelle vietnamienne qui a été rapportée du Vietnam par Bich, la mère de famille. Une partition de musique qui a été rapportée par le père de famille, Paul, qui est un accordéoniste, donc qui est attaché une grande valeur à ces partitions. Et puis, on présente aussi un objet de peu, mais qui dit beaucoup de choses, une petite louche en fer blanc qui faisait partie de ces objets qui étaient fournis aux familles quand on les installait donc dans ce centre d'accueil de Noyant-d'Allier, donc sur le site d'anciens corons désaffectés. On attribuait une maison aux familles et puis avec tout le nécessaire pour pour mener la vie quotidienne. Donc on fournissait une sorte de trousseau. Dans ce trousseau, il y avait cette petite louche en fer blanc qu'on montre dans l'exposition. Et donc la famille Likuyong, elle est restée dans le camp de Noyon d'Allier pendant 2 ans à peu près, avant de s'installer en région parisienne. Et la mère de famille, Biche, a gardé tout au long de ses déménagements successifs cette louche qui est vraiment un témoin de ce passage par le centre de Noyon.
Alors c'est des caries, les camps d'accueil des rapatriés d'Indochine, et des cafis, les centres d'accueil des Français d'Indochine. Ce sont ces oubliés d'Indochine.
Ce sont les oubliés de la guerre d'Indochine. Ceux qui, après Diet Bien Phu, après les accords de Genève, après 1955, ont choisi de vivre en France. Ils avaient la nationalité française pour certains services rendus à la France. Ils étaient catholiques pour la plupart. Quelques-uns venaient même des anciens comptoirs français de l'Inde, d'autres des légionnaires d'Afrique, mais en majorité ils étaient d'Hanoï, de Saïgon, ou du Laos, ou du Cambodge. Ils arrivaient, et ils arrivent encore, selon l'extension des combats, des villes, des villages et des plantations. Presque tous se sont dispersés à travers la France, mais les autres, ceux qui n'avaient pas de relations, ceux qui voulaient rester entre eux, sont allés de camp en centre d'accueil, ballottés au hasard des paperasses de l'administration française, et ont échoué près de Noyon, un village du Bourbonnais, dans un groupe de corons abandonnés, où ils essaient chaque année de reconstituer la fête du Tête, comme au pays.
Nous étions en 1972 pour ce reportage sur les oubliés d'Indochine, Simen Wang. C'est très troublant toujours de voir ce moment de notre histoire et de se dire que, ben voilà, nous sommes dans ces années, fin 1970, où il y a des camps de réfugiés et que l'intégration paraît difficile. C'est-à-dire qu'il y a presque une invisibilisation de ces populations-là. Ils sont dans leur camp.
Oui, effectivement, si on continue à parler des rapatriés, il y a deux camps principalement, deux camps d'accueil, à celui à Noyon-Allier, mais aussi à Saint-Livrade-sur-Lot. Et donc, effectivement, quand on se penche sur les écritures et aussi des recherches scientifiques qui ont été menées sur cette période auprès des enfants, par exemple, qui ont grandi dans ces camps, ils partagent en fait ces sentiments d'être coupés du reste de la société française, parce que il faut rappeler à Noyon d'Allier pourquoi les personnes ont été accueillies là-bas, parce que il y a une fermeture de la mine, et puis à Saint-Livrade-sur-Lot c'était aussi ils ont repris une infrastructure qui était censée devenir une poudrerie, et donc on voit que ce sont des territoires bien définis, et donc les personnes accueillies, effectivement, ils ont été accueillis à bras ouverts, ils n'ont pas été rejetés aux frontières. Mais en revanche, ils ne sont pas forcément en contact avec les populations locales. Et donc, les enfants, ils partagent ce sentiment de devoir tout le temps se justifier pour leur existence sur le sol français, dans la société française. Et donc, il y a une très, très forte souffrance, et d'autant plus que leur histoire n'a pas toujours été reconnue, et même au pays d'origine. Ils étaient parfois un peu cherchés de soupçons de traîtres pour certains qui ont quitté justement l'Asie pour venir en France.
Et qu'en est-il des Boat People que vous avez cité, Simen Wang? Parce que c'est ce mouvement-là, et nous sommes sur la même chronologie de ces départs, et ça a marqué les esprits, et encore jusqu'aujourd'hui, citer le mot de Boat People, on imagine tout de suite, et on les a en tête, ces images dramatiques de ces personnes qui fuient sur un bateau la péninsule indochinoise.
Oui, les réfugiés sud-est asiatiques ont quitté leur pays suite justement au début des régimes communistes autoritaires au Vietnam, au Laos et aussi au Cambodge, et donc c'était en 1975, et donc le montée en pouvoir de ces régimes communistes autoritaires ont entraîné un départ historique des populations en provenance de ces trois pays en question vers l'Occident. Et donc effectivement vers l'Occident et le reste du monde. Hein, et donc au total, on recense plus de 3 millions de personnes déplacées qui ont quitté en fait cette partie, ces trois pays asiatiques, dont 1,3 million de personnes ont trouvé leur refuge en Occitan. Et parmi ces 1,3 million de personnes en France, qui consiste le deuxième pays d'accueil hein, après les États-Unis, a accueilli 130 000 réfugiés sud-est asiatiques.
Oui, parce que les accueillir, oui, mais accueillir comment et où? On a parlé de ces camps de réfugiés, ça c'est quelque chose qui est dans l'exposition, je pense, pour beaucoup une découverte. Et pour ceux, c'est toujours très émouvant d'aller dans les expositions du Musée National de l'Histoire de l'Immigration, parce que il y a des individus directement concernés par cette histoire-là qui sont en train de visiter. Mais pour la plupart des gens, dans un schéma stéréotypé, où vont tous ces Asiatiques qui arrivent en France? Tout simplement dans le 13e arrondissement.
Au détour d'une rue, près de la place d'Italie, dans un quartier moderne de tours et de galeries marchandes, l'Asie est là, malgré le froid de février. Mélange du Vietnam, du Cambodge avec un peu de Hong Kong pour le décor ultramoderne. Les couleurs, les odeurs, les affiches, les magasins, les visages. Chassés par la guerre qui continue, expulsés par les régimes communistes, fuyant les massacres ou les camps de rééducation, plus de 100 000 Indochinois ont trouvé refuge à Paris. Les Vietnamiens sont les plus nombreux. Et au lieu de se disperser dans toute la France ou dans toute la capitale, ils ont préféré se regrouper dans de petits îlots comme celui-ci, où l'atmosphère qu'ils recréent les aide à oublier l'exil. Le marchand de disques était commerçant à Vientiane, le patron d'un restaurant parlementaire au Cambodge, le bijoutier importateur de pièces détachées à Saïgon. Ils ont leurs magasins, leurs immeubles, leurs associations, leurs journaux, ils vivent ensemble, conservent leurs traditions, parlent leur langue, tentent de faire venir leur famille, c'est Cholon ou Saïgon, reconstitué sur les rives de la Seine.
Chinatown, présenté sur la première chaîne de télévision française en 1980, Simeng Wang. En fait, on a aussi du stéréotype ici. Hein. Ils sont entre eux, ils vivent entre eux.
Oui, exactement. Mais avant de parler des quartiers d'installation, je me permets d'apporter une petite information complémentaire, mais qui est très importante, puisque tout à l'heure, on a beaucoup parlé des camps d'accueil, hein, donc des CAFI, qui pour les personnes rapatriées. Donc là, ça s'est passé dans les années 50-60 et un petit peu au début des années 70. Et après, on a parlé des réfugiés sud-est asiatiques qui sont souvent appelés par les médias « boat people ». Là, ils arrivent à partir de la seconde moitié des années 70. Ils ont été hébergés dans des centres d'hébergement provisoire qui ne sont pas ces deux camps dont on a signalé tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, dans l'exposition, justement, on propose une cartographie des centres d'hébergement provisoire, dont notamment un à Conilhon-les-Corges, qui ont, là on propose aussi une histoire singulière hein, d'une famille qui a été accueillie dans ce centre d'hébergement provisoire. Et effectivement, ces « boat people » entre guillemets, pour beaucoup, ont été installés et accueillis dans le 13e arrondissement de Paris. Rappelez que le 13e arrondissement, il y a eu un projet d'urbanisation assez important, qui a eu lieu, qui a été nommé Italie 13. Au départ, on a commencé à construire tous ces grands ensembles d'immeubles, des tours, pour accueillir plutôt des, pour attirer justement plutôt l'achat et l'investissement immobilier des Français de classe moyenne, notamment. Mais le projet n'a pas connu un tel succès. Et du coup, au courant des années 70 et 80, on voit s'installer beaucoup de familles d'origine asiatique hein, qui sont venues en tant que réfugiés politiques.
D'ailleurs, c'est l'affiche de l'exposition « Immigration Est et Sud-Est asiatique depuis 1860 ». Émilie Gandon, l'exposition, c'est une exposition sur le temps long. La date de début, c'est depuis 1860. La date de fin, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, avec cette évocation dans l'exposition, des conséquences actuelles d'une nouvelle forme de migration. Une migration, enfin là, faudrait mettre même plusieurs pluriels, parce qu'elles prennent des formes très très différentes les unes des autres, avec quand même, et c'est souvent le cas dans ces histoires de migration, de l'exploitation.
Effectivement, donc notre exposition, elle porte aussi sur la période contemporaine. Donc, dans cette période contemporaine qu'on fait démarrer dans notre exposition aux alentours des années 1990, on évoque cette diversité des routes migratoires aujourd'hui en montrant la diversification des arrivées, donc des pays de provenance, mais aussi la diversification des profils socio-économiques des personnes qui arrivent en France. Et on a tout un ensemble d'objets et de documents qui témoignent de ces migrants qui arrivent aujourd'hui en France en situation de précarité. Et on présente des objets qui nous ont été confiés par des femmes d'origine philippine, donc qui ont été accompagnées par le CCEM, le Comité contre l'esclavage moderne, qui a fait tout un travail avec ces femmes philippines qui ont été amenées par leurs employeurs, essentiellement issus du Moyen-Orient, en France, pour effectuer des travaux, enfin pour occuper des emplois de travail domestique, travail forcé. Et donc, dans l'exposition, on montre une série d'objets et de documents qui sont assez touchants et qui racontent un peu le parcours de ces femmes. Donc, on a un document administratif, on a aussi les petits chaussons d'une de ces femmes qu'elle avait lorsqu'elle a pu enfin quitter son employeur.
Oui, on ne pensait pas, avant d'aller visiter l'exposition, être ému par une petite paire de ballerines. Merci vivement à toutes les deux, Émilie Gandon et Simeng Wang, vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS. Vous êtes toutes les deux commissaires de cette exposition « Immigration Est et Sud-Est Asiatique depuis 1860 ». C'est jusqu'au 18 février 2024. Au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, c'est le Palais de la Porte Dorée à Paris. Merci beaucoup à toutes les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment.
Pourquoi dit-on que Jocelyn Bell a été injustement privée du prix Nobel ? Jocelyn Bell Burnell est une astrophysicienne britannique, née en 1943. Elle n'a pas été ignorée par la communauté scientifique, puisqu'en 2018, elle a obtenu le prix spécial de Persée en physique fondamentale, une distinction accompagnée d'une récompense de 3 millions de dollars. Mais Jocelyn Bell Burnell a fait don de la totalité de cette somme afin d'aider les femmes, les réfugiés et d'autres étudiants issus des minorités à suivre ses traces et à devenir eux-mêmes chercheurs en physique. Si j'ai consacré ma chronique à cette chercheuse, ce n'est pas seulement pour évoquer sa générosité. La raison principale tient au fait qu'elle est souvent citée aujourd'hui comme un exemple du processus de marginalisation des femmes dans l'histoire des découvertes scientifiques. Quelques éléments de sa biographie vont me permettre d'en expliquer les raisons. Passionnée dès son enfance par l'astronomie, Jocelyn Bell a obtenu un diplôme en sciences à l'université de Glasgow avant de s'intéresser à la radioastronomie à Cambridge. C'est là qu'elle a préparé sa thèse en contribuant à la mise au point d'un radiotélescope dont le but était d'étudier ce que les physiciens appellent les quasars, une source d'ondes hertziennes analogue à une étoile. En examinant les enregistrements captés par cet instrument, Jocelyn Bell a remarqué une source lumineuse qui ne correspondait pas au schéma habituel des quasars. Elle a signalé sa découverte à son directeur de thèse, Anthony Hewish. Bien que celui-ci ait d'abord pensé que ce signal n'était qu'une interférence de radiofréquence, cette source radio a été finalement reconnue comme étant le premier pulsar. Toutefois, dans l'article scientifique annonçant cette découverte, publié en 1968, le nom d'Anthony Hewish apparaît en premier, celui de Jocelyn Bell en second. En 1974, Hewish a reçu le prix Nobel de physique pour la découverte des pulsars, mais le rôle décisif qu'avait joué Jocelyn Bell est resté dans l'ombre. C'est ce qui a alimenté une controverse au sein même de la communauté scientifique. Certains ont estimé en effet que Jocelyn Bell aurait dû recevoir une part du prix Nobel. D'autres ont répondu que Hewish était sans aucun doute l'acteur majeur dans les travaux qui ont conduit à la découverte, parce qu'il a inventé la technique de scintillation en 1952 et qu'il a dirigé l'équipe qui a construit le réseau et fait la découverte. Jocelyn Bell a donné son avis sur cette polémique en estimant que cela rabaisserait les prix Nobel s'ils étaient attribués à des étudiants-chercheurs, sauf dans des cas très exceptionnels dont elle estimait ne pas faire partie. Dans une autre interview, elle a à nouveau relativisé l'injustice dont elle avait été victime en disant « J'ai eu de nombreux autres prix et tellement de récompenses et d'honneurs que, en réalité, je pense que je me suis bien plus amusé que si j'avais eu le prix Nobel. C'est un feu de paille en quelque sorte. Vous l'avez, vous êtes heureux le temps d'une semaine et tout est terminé. Plus personne ne vous remet quoi que ce soit après parce qu'il y a le sentiment que rien ne peut être au même niveau. »
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était Le Cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Jérémy Kaufmann. Merci à toute l'équipe du Cours de l'Histoire. Demain 10h, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet s'intéresse aux Arméniens. Et nous, la semaine prochaine dans Le Cours de l'Histoire, l'histoire du conflit israélo-palestinien, rappel historique.